Funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that
it ain't all good.
Yeah, you wanted extra cheese, sometimes I gave you extras. How we divided slices like the Red Sea theory. I was Moses, hopelessly scorned by your thorns of horror. Tried to bring that fairy tale life, you wanted horror. But my microscope couldn't see a cope with that. I had to bolt from that and left it dead in the sea. It's better for me, I'm satisfied with repping for D.
We were certified hot, then dropped to lukewarm. Now we back up in the spot, claiming never been gone. Who cut us off, wanna reattach us now.
Them girls who brush us off say they want some numbers to die.
Yeah, I get that some number and some lumber to pound and catch a curve from my kick.
Won't show me love if I break.
So stick to the same plan. Don't come shaking my hand like we peeps. It ain't beef, but be sure to understand between us it ain't
all good.
Up tight, then you might feel what was dealt to me. You see, ain't no young boys up in here. Keep a clear head, trying to keep my pockets on stuff like deer heads upon the wall. So all the gold we get from y'all don't phase. So mind your biz and walk your ways, cause I'm never gonna let you up inside my maze.
I don't care about what you think you say. Things you want to know.
Saint-Médard-en-Jalles avec Musique in Médoc qui vous accueille du lundi au samedi. l'adresse incontournable de l'Ouest bordelais. Pour ton contact, instrument-musicinmedoc.fr ou au 09 63 60 24 89. Porto FM sur ton smartphone grâce à son application gratuite dispo sur iOS et Android. Téléchargez-la pour profiter du meilleur des hits et tout savoir sur votre radio. Porto FM, au cœur de la métropole bordelaise, te suit partout.
Et vous êtes bien sur Bordeaux FM avec aujourd'hui, pour commencer, le marathon des campagnes municipales avec Philippe Poutou. Bonjour monsieur. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va, oui.
Donc, qu'est-ce que je voulais dire pour... Attends, je monte juste le son du téléphone. Voilà. Pour savoir aujourd'hui, ta première, on se tutoie ou on se vouvoie ?
On peut se tutoyer.
Ouais, parce que bon.
Déjà, quand on se croise, donc on peut continuer à l'antenne.
Oh, voilà, c'est avec toi seul que je peux te tutoyer, les autres je les tutoie pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Bordeaux en lutte a commencé la campagne bien longtemps. Qu'est-ce que tu en fais comme premier bilan ?
Ouais, notre campagne, en fait, c'est vrai qu'elle démarre d'une certaine manière hors campagne électorale, puisque ce sont des militants d'horizons divers. Hein. On est une équipe qui a réussi à regrouper à la fois des syndicalistes, des associatifs, de collectifs, de gilets jaunes, et puis évidemment des militants politiques comme ceux du NPA et de la LFI. Et en fait, c'est des discussions qui ont démarré dans les manifestations. Il y avait encore quelques manifestations gilets jaunes l'année dernière, et puis surtout, il y avait la bataille contre la réforme des retraites. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit que ça vaudrait le coup d'apparaître dans la campagne électorale municipale à Bordeaux, et de faire entendre justement cette colère-là, de relayer la voix des manifs, et puis de se dire qu'il n'y a pas de raison de laisser les politiciens de gauche ou de droite faire leur petit truc sans qu'on soit là. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, la campagne, elle démarre comme ça, et le temps de discuter, le temps de se mettre au point, le temps de construire tout ça, bien, en fait, on va apparaître au dernier moment dans la campagne électorale, puisque c'est fin janvier que notre liste est finalisée et qu'on fait une conférence de presse de lancement de campagne, donc bien après tous les autres. Mais c'est pas pour ça qu'on était inactif, et c'est pas pour ça qu'on militait pas, et voilà. Et là, c'est vrai que donc, du coup, ben, on a une pour nous, en tout cas, on vit un moment très fort, humainement et politiquement, et c'est vrai que ben, ça se voit, puisque de toute façon, c'est une campagne qui a de l'écho. On a réussi à franchir le premier tour en dépassant les 10%, et là, maintenant, on est au deuxième tour, et on est dans une finale. Une finale, on n'est pas habitué, en fait. Hein.
Une finale de 3, tu es.
Ouais, voilà, une finale à 3, et ça, c'est marrant, parce qu'en fait, c'est une finale habituellement où ils la jouent à 2. Hein. Bon, à Bordeaux, c'est vrai que ça se joue en un tour, et l'élection depuis très très longtemps. Mais quand il y a un deuxième tour, bon, ben, c'est un peu le tout classique, hein, la gauche contre la droite, ou la soi-disant gauche contre la vraie droite. Et nous, on est là, et on voit bien qu'on dérange, on voit bien qu'on pose problème, à tel point que certains, surtout du côté de la gauche, qui nous expliquent qu'on devrait se retirer et laisser les grands se débrouiller tout seuls, et surtout ne pas empêcher ce que la gauche puisse faire partir la droite. Mais nous, on est là pour représenter tout à fait autre chose, et justement pour contester cette société-là, et puis pour dire, ouais, là, il y en a marre. Et nous, on va le dire directement, ça, on va pas utiliser des politiciens pour faire croire des tas de choses. Donc voilà, donc c'est pour nous un truc énorme. Et on est assez, on est motivé évidemment, mais en plus on a une confiance en nous qui fait du bien, parce que habituellement on est plutôt dans des situations délicates et en train de voir les défaites se succéder. Bon, mais là on a au moins un moyen d'expression d'une colère, et puis derrière des perspectives qui sont un peu différentes.
Et l'objectif suite au lendemain du deuxième tour, il y aura un conseil municipal où on pense quand même que les trois listes seront représentées. Et l'objectif, si tu as 1, 2 ou 4 élus, l'objectif sera quoi pendant le mandat ?
Ouais, alors c'est justement l'avantage de cette élection-là, entre guillemets, c'est que effectivement, c'est pas où on gagne ou on perd. Évidemment, l'enjeu principal qui est vu par l'ensemble de la population, c'est qui sera le maire, donc qui aura le pouvoir à Bordeaux. Donc là, malheureusement, on est en train de comprendre que ben, la droite, le chavaniste, va garder la main, ou devrait la garder, encore que
possibilité pour les deux perdants de toute façon d'avoir des conseillers municipaux et de défendre une politique. Alors c'est vrai que du point de vue arithmétique, si on n'est pas vainqueur, si on n'a pas la mairie, forcément on n'a pas de pouvoir et donc du coup on ne représente que quelques voix contre une large majorité puisqu'en fait la redistribution des postes de conseillers municipaux c'est très inégalitaire. C'est le vainqueur, il a déjà comme cadeau bonus la moitié des 65 conseillers municipaux de Bordeaux, donc il en a 32 ou 33, et ensuite la deuxième moitié c'est réparti au pourcentage des trois listes. Voilà, ça se passe comme ça. Donc en fait, celui qui gagne, il rafle quasiment tout, et donc du coup, l'opposition, ou en tout cas les autres, ils sont dans des situations avec de faiblesse, puisqu'il y a très peu d'élus. Donc,
ils ramassent des miettes.
Comment ?
Les listes perdantes ramassent les miettes. Hein.
Que bah, du coup bah, ça enlève des moyens d'action, en tout cas du point de vue des votes ou des décisions, on est ultra minoritaire. Par contre, nous, ce qu'on pense, on est convaincu de ça, c'est que bon, là, par rapport à la question que tu posais, c'est que nous, avec 11%, tel que c'est dit dans les sondages, ou les 11% qu'on avait fait au premier tour, en fait, on a trois sièges. Et à 12 et quelques, on a calculé qu'on en avait un quatrième. Donc nous, on se bat pour avoir ce quatrième-là, pour en avoir quatre, avoir une équipe de deux garçons, de filles, en fait. Et puis surtout, plus on est, mieux ce sera. Parce qu'en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est faire le lien avec les quartiers, avec les associations, avec la contestation sociale, avec les manifs. C'est notre conception du rôle de l'élu. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie d'arriver à faire en sorte que ce qui se passe dans le conseil municipal, ce soit complètement public, qu'on serve à raconter ce qui se passe, à raconter ce qui se discute, et surtout aussi d'en appeler à la mobilisation de la population, des quartiers, donc de continuer notre boulot militant. C'est ça qu'on appelle ça, conseiller militant, parce qu'en fait on sera conseiller municipal, mais en même temps on restera des militants, et tout le problème, ça sera de comment, en étant minoritaire arithmétiquement dans le conseil municipal, c'est comment on peut peser, comment on peut mettre la pression, et comment donc on peut changer quand même le rapport de force, et arriver à bousculer et à pousser pour qu'il y ait des réponses aux urgences sociales.
Voilà,
c'est un peu le lien à faire entre à la fois le programme radical qu'on a, qui va se heurter forcément à ce que fera là, mais qui se heurterait forcément aussi à ce que ferait Urmic si jamais c'est lui qui est élu, parce que Urmic c'est le PS. Le PS, on voit comment il gouverne la région, on voit comment il gouverne le département, on voit comment il gouverne quand ils sont président de la République. Donc on est conscient de toute façon qu'on a des batailles sociales à mener, mais c'est évidemment sur un rôle militant de construction de résistance, et on espère pouvoir donner envie aux habitants à se mobiliser en permanence et pas attendre jusque quand il y a les élections. Quoi.
Sur le premier tour, on a pu quand même s'apercevoir, Philippe, que il y avait le quartier Saint-Michel et puis vers Bacalan et le Grand Parc où c'était bastion en termes de vote assez fort.
Oui, tout à fait. Ben, il y a un petit, je ne sais pas comment on appelle ça, le genre de graphique, c'est le journal Sud-Ouest qui a fait paraître ça hier, hein, pour les quatre listes, donc Florian, Cazenave, Urmic et nous. Et c'est vrai qu'ils ont à chaque fois montré où c'est qu'on avait fait les plus gros scores, chacune des listes. Et nous, pour nous, ce qui nous concerne, donc ils ont mis la couleur rouge, donc c'est plutôt bien trouvé quand même.
Oui.
Et c'est vrai que plus c'est rouge, plus c'est foncé, plus on faisait des bons scores. Et on voit donc la carte de Bordeaux, et c'est vrai que c'est le bureau des menus, là je crois que c'est là où on a fait mieux, mais en fait, grosso modo, c'est Saint-Michel, Saint-Jean, et puis, ouais, Grand Parc, les Aubiers, et puis la Bastide. On voit que là où ça rougit, le plus, ce sont les quartiers populaires et donc ce côté centre-ville de Bordeaux, mais très populaire encore. Et puis là où c'est le rouge pâle quasiment blanc, c'est le centre historique de Bordeaux, le triangle d'or, ce qu'on appelle le triangle d'or, et Codéran. Donc en fait, il y a une sorte de réalité, de justesse de notre des gens qui votent pour nous, et donc des milieux populaires de Bordeaux. C'est très intéressant de voir ça, et ça confirme et ça nous rassure, c'est qu'en fait on a vraiment de l'audience dans les quartiers populaires.
Tu as quand même dans ton programme, bon, l'accès, il y a quand même un programme très social, bon, bah, c'est quand même normal par rapport à ta liste. Et puis aussi, quand même, il y a quand même une notion écologique, comme dans toute la plupart des listes. Mais pour toi, l'écologie et l'environnement, c'est un autre sens.
Ah ouais, ben nous, on est dans l'idée
qui a été d'ailleurs bien reprise par, dans la mobilisation Gilets jaunes, puisque c'est un slogan qui est devenu fin du mois, fin du monde, hein, pour montrer la liaison qu'il y avait entre les deux combats et à quel point finalement une bataille sociale aujourd'hui, elle est complètement, elle doit être complètement liée à la bataille environnementale et vice-versa. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en répondant à des problèmes d'environnement, on répond aussi à des problèmes sociaux et qu'on s'aperçoit surtout que l'adversaire qu'on a dans les deux cas, c'est ce système économique capitaliste qui détruit à la fois les gens, les droits sociaux et la planète et l'environnement. En fait, la boulimie, la course au profit, satisfaire les actionnaires, on voit bien, ce sont des logiques de marchandisation, des logiques de jungle, quoi. Chacun pour soi, on s'enrichit, on se fout des autres. Et donc, du coup, on est confronté à ça. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs pas mal dit par des mouvements comme Extinction Rebellion ou même ANV comme 21. Et on voit que finalement, on est en train d'arriver à fusionner dans les combats, justement, cette question sociale et écologique. Et nous, on raisonne comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre programme, c'est en fait, grosso modo, c'est de dire, voilà, il y a des urgences sociales, il faut y répondre. Alors, c'est la question du logement, la question de l'alimentaire aussi, hein. Il faut une sécurité alimentaire pour les gens. C'est la question de l'eau, c'est la question des énergies. Il faut absolument que quel que soit le revenu qu'on a, on ait garanti d'avoir accès à tout ça. C'est la question de la santé, la question des transports. C'est pour ça qu'on défend tout le temps le service public et l'accès gratuit aux besoins fondamentaux de la société, et c'est des réponses écologiques sur Bordeaux, et bon, donc il y a le transport et la question aussi des pesticides. Nous, on est contre les pesticides, il faut un arrêté anti-pesticides, il faut protéger la population, et puis c'est la bétonisation, la spéculation immobilière, enfin cette boulimie aussi de d'occuper tous les espaces, de les remplir de béton, tout ça pour les promoteurs, pour les bâtisseurs. Et donc voilà, on est à chaque fois, en fait, on s'aperçoit qu'on est sur les mêmes raisonnements, sur les... Et donc, du coup, c'est assez facile, finalement, de faire le lien et donc sur les revendications. Mais du coup, après, on arrive à faire le lien avec les équipes militantes et on se retrouve ensemble dans des initiatives aujourd'hui, quoi.
Concernant, tu as parlé du déplacement. C'est quand même aussi une politique métropolitaine par rapport à Bordeaux, parce qu'il n'y a pas que Bordeaux, il y a quand même plus de 28 ensemble, 28 communes. Pour toi, l'enjeu de la métropolitaine représente quoi actuellement ?
Ben ouais, mais ça c'est sûr que c'est un enjeu important. Bon, alors du coup, on voit bien aussi la difficulté qu'il va y avoir par la suite, parce que autant on peut avoir 2, 3, 4 ou 5 élus au conseil municipal de Bordeaux, autant à Bordeaux Métropole, ça sera plus compliqué, parce qu'on peut en avoir un ou deux, par exemple, hein, si on arrive à faire des scores qui sont possibles. Et là, on se dit, mais comment on pèse, là, évidemment. Mais c'est vrai que les décisions politiques, de toute façon, sont aujourd'hui pour beaucoup prises dans les métropoles, donc dans l'Assemblée de Bordeaux Métropole, mais comme dans les communautés de communes, quoi. En fait, on s'aperçoit que le pouvoir s'éloigne du local, et il y a des concentrations de pouvoir sur des regroupements de communes, et c'est là qu'on voit petit à petit une société de moins en moins démocratique. Elle l'était déjà relativement peu, mais alors là, ça, on va vers des véritables pouvoirs politiques centralisés, et avec de moins en moins de moyens pour les mairies, pour les communes, et plus elles sont petites, et moins elles auront la possibilité d'agir. Et donc, du coup, il y a une question politique qui est posée, c'est qu'effectivement, agir sur une ville, c'est aussi agir sur beaucoup plus largement. Et ça pose le problème de l'aménagement du territoire, ça pose tous ces problèmes-là. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, ce qui se discute à Bordeaux, c'est les problèmes politiques qu'il faut discuter à l'échelle de la métropole, et plus globalement, de toute façon, c'est des questions qu'il faut qu'on discute au moins au niveau départemental. Et de ce point de vue-là, on a vu que le mouvement des Gilets jaunes, il l'exprimait, la fracture sociale, il l'exprimait, justement, les inégalités, la destruction des solidarités à l'échelle de tout un territoire. Parce qu'en fait, au Bordeaux, la gentrification, les pauvres et les modestes sont virés de plus en plus, écartés du centre-ville, puis écartés de Bordeaux, puis écartés de la métropole, et les gens qui n'ont plus d'argent, ils sont obligés de s'éloigner, et des centres-villes, alors qu'il faudrait tout transformer, à la fois permettre à tout le monde de vivre à Bordeaux, mais surtout d'aménager le territoire différemment. Il faut que les services puissent rester dans tout le département, il faut que le commerce et les petits commerces puissent survivre un peu partout, et que la population puisse vivre un peu partout et avoir accès aux services et avoir accès à la vie sociale normalement. Donc c'est vraiment des combats politiques pour tout réaménager, mais là ça voudrait dire qu'à un moment donné, la population se mobilise très fortement pour changer ça, quoi.
Concernant, en parlant de la crise là, que ce sanitaires qui nous ont fait traverser, tu étais quand même aux premières loges avec la ville de Bordeaux. En tant que candidat, comment tu l'as vécu ces deux ou trois mois ?
En tout cas, on a, en tant que, on va dire, en tant que
alcooliste, hein, puisqu'en fait, dès le départ du confinement, on a été très perturbés, évidemment, parce que ça s'est passé brutalement, hein, en quelques jours, même parfois, enfin, on pourrait presque dire en quelques heures, on a senti que ça basculait dans un enfermement de chacun à la maison. On avait vu les slogans de l'époque, hein, ne bougez plus, la meilleure façon de sauver des vies, c'est de rester chez soi. Et on a vu sous la forme d'autorisation de sortie et de contrôle policier. Enfin voilà, on a vu à quel point la société pouvait basculer dans un truc complètement surréaliste. Alors on a bien compris les exigences liées à la crise sanitaire et à la protection de la population, mais on a vu cette gestion calamiteuse qui était aussi et surtout liée à l'incapacité de protéger la population en amont. Il n'y avait pas de masque, hein, faut s'en rappeler, c'est vrai qu'on en parle beaucoup maintenant, pas de masque, pas de moyen de tester la population. Donc en fait, la seule solution qu'ils ont eue à un moment donné quand ils ont paniqué, ça a été d'enfermer tout le monde à la maison et en provoquant par la suite une catastrophe économique puisqu'ils ont tout stoppé, quoi. Et c'est tellement brutal, tellement n'importe comment que du coup, bon, ouais, et maintenant, ce serait à nous, la population, de payer les conséquences de leur gestion puisqu'en fait, parce que l'économie s'est arrêtée pendant plusieurs semaines, eh bien, on va payer maintenant par des licenciements, par des pressions sur les conditions de travail. Enfin, voilà. Donc on voit cette gestion-là, mais une gestion qui n'est pas surprenante de la gestion d'avant la crise sanitaire.
Et les petits commerces aussi risquent aussi de fermer.
Oui, bien sûr, ouais, mais tout ce qui est petit, en fait, les salariés trinquent, les petits commerçants trinquent, les restaurateurs, les marchands de journaux, enfin, tous ces gens-là ont galéré, ont souffert. Ils ont été en plus en première ligne. On parlait des petits commerçants, notamment les marchands de journaux qui étaient ouverts, ils étaient en première ligne sans protection. Enfin, voilà, c'est des gens où les caissières dans les commerces, dans le commerce alimentaire, puisqu'il ne restait plus que les commerces alimentaires. Et on a vu la prise de risque, la mise en danger de tous ces gens-là. Qui n'avaient pas les moyens réels de se protéger. Donc voilà, cette gestion-là, elle est liée à ce qu'on voit du système économique habituel. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, c'est toujours pareil. C'est la fortune des plus riches et puis les salariés, ils sont bons à prendre des risques. Ils sont bons à risquer directement leur vie par rapport au virus. Mais en temps normal, bah, ils risquent leur santé par des conditions de travail dégradées. Enfin voilà, donc du coup, oui, quand la période de confinement a démarré, bah, nous, on a été très perturbés. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est quelques jours après, on a commencé à faire des réunions et on a essayé de voir comment on pouvait répondre à ça, comment on pouvait dénoncer, et en sachant qu'on avait des camarades de la liste qui participaient aux maraudes dans les différentes associations et collectifs pour aller apporter à manger aux personnes sans-abri ou dans les squats, dans les campements. Donc il y avait toute cette urgence humanitaire et en même temps d'essayer de jouer un rôle pour raconter ce qui se passait, pour sensibiliser et puis pour essayer de garder des liens de solidarité et de dénoncer tous ces agissements des pouvoirs politiques, enfin, qui faisaient en réalité pas grand chose pour répondre aux urgences sociales.
Les derniers rendez-vous que tu fixes avec la liste aujourd'hui pour clôture la campagne, ça va être quoi le programme?
Tu peux répéter la question, s'il te plaît?
Les derniers rendez-vous, points de rendez-vous que tu donnes pour clôturer la campagne, elles sont quoi aujourd'hui?
Ben là, aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc on a surtout du collage et du tractage. Voilà, donc il y a des distributions de tracts là en ce moment même. Cet après-midi, on fait des collages. Et ce soir, on a un pique-nique. Alors, on sait pas le temps, mais le temps, pour l'instant, il n'est pas catastrophique. Kate Cléris, la rive droite, en face du jardin botanique, enfin, au niveau du jardin botanique, on organise un pique-nique, donc, qui est l'équipe Bordeaux en lutte, et puis avec nos proches, et donc, tous celles et ceux qui veulent y participer ou venir ou boire un coup ou papoter un peu. Voilà, c'est un genre de petit rendez-vous festif qu'on fait, parce que hier on a fait ce qu'on appelle le meeting, mais c'était pas vraiment un meeting, mais un meeting on l'a fait en plein air hier, hein, parce qu'en fait on n'avait pas envie de le faire dans une salle, on était pas à l'aise de s'enfermer là-dedans à 150 ou un peu plus.
Oui.
Et du coup on l'a fait en plein air et place Saint-Michel, et on a eu l'autorisation de la préfecture et l'autorisation de la mairie de Bordeaux, donc on n'y croyait pas trop, mais on a réussi à l'avoir, parce qu'en fait en réalité aujourd'hui on n'a pas le droit de faire des trucs comme ça, on n'a pas le droit de faire des rassemblements, mais comme c'était un meeting électoral, on peut supposer qu'ils n'étaient pas à l'aise à l'interdire, donc du coup voilà, et on a fait un truc, mais alors on est hyper content, on était à peu près 200, même un peu plus, mais ça s'est passé au pied de la flèche Saint-Michel, dans un quartier populaire, en plein air, et donc on a fait un peu de discours, et puis on a...
Et un concert aussi, j'ai vu, non?
Comment?
Il y avait un concert.
Oui, il y avait de la musique, on avait une fanfare très sympa, et après des DJ. Voilà, donc on a fait quelque chose qui alliait le côté fraternel, chaleureux, et puis le côté politique, évidemment, puisqu'en fait, c'était aussi. Il y avait plusieurs camarades de la liste, ou proches de la liste, ont parlé. L'élu de Blanquefort-en-Lutte aussi, qui est très, très proche de nous, évidemment, qui a parlé, et avec qui on collaborera par la suite. Ben voilà, donc c'était l'occasion d'expliquer pourquoi on était là, dans cette élection. Là, qu'est-ce qu'on avait envie de dire, et puisque la fierté qu'on avait de porter la parole de tous ceux qui en ont marre de cette société, qui veulent que ça change, donc de faire entendre la colère sociale. Et puis, bon, voilà, puis un meeting pour dire que oui, bien sûr, qu'il faut rester mobilisé, qu'il faut faire en sorte que dimanche on ait le meilleur score possible de manière à avoir le plus de militants qui rentrent dans le conseil municipal de Bordeaux, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui, ben, c'est un peu la suite avec un pique-nique, parce qu'en fait, c'est comme ça aussi qu'on voit les choses, quoi. C'est que faire de la politique, s'occuper de nos affaires, c'est ça, c'est passer aussi des moments fraternels, on discute, on voit comment on fait, et on sait qu'en plus notre aventure, elle se terminera pas a priori, sauf vraiment gros accident. Il faudrait qu'on fasse moins de 5% pour qu'on ait pas d'élus, il faut vraiment faire au moins 5%, mais a priori, on va les faire quand même, on espère en tout cas, et on sait que l'aventure va continuer parce qu'on aura des élus et parce qu'on va faire des assemblées générales tous les mois, parce qu'on discutera, parce qu'on essaiera de voir comment on peut agir. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est ça, et puis demain, mais demain on peut plus rien faire. Hein, c'est interdit par la loi, donc on ne peut plus faire campagne, donc ça s'arrête ce soir à minuit.
Voilà.
Donc voilà. Et juste pour dire que demain, ça ne fait pas partie de la campagne, c'est autre chose, mais il y a quand même une manifestation demain, ce sont les ultras là, des Girondins de Bordeaux, qui manifestent par rapport à la crise qu'il y a dans le club, par rapport aux agissements des actionnaires des Girondins de Bordeaux. Et donc,
mais...
il y a une manifestation dans l'idée qu'il faut absolument que le côté populaire dans ce sport-là soit maintenu, et que donc, du coup, bah oui, ça serait normal que les supporters ils aient un droit de regard et un droit de décision sur tout ce qui se passe. Donc, en fait, voilà, il y a une manifestation de contestation demain après-midi. Donc, ça nous permet même,
ouais,
quand la campagne est finie, bah, finalement, de continuer à pouvoir manifester. Et bon, voilà, donc c'est ce qu'on fera demain.
Je pense que je t'inviterai, soit le collectif Bordeaux en lutte, et puis des membres des Ultras, pour parler de la situation des Girondins de Bordeaux. Pour l'instant, nous, on l'avait mis un petit peu de côté, parce que bon, on a une page qui en parle, donc à la radio, on parlait surtout des élections municipales. Concernant les candidats de Bordeaux, on t'a invité, toi, et puis une autre liste qui n'avait pas été retenue, qui était une liste citoyenne côté de Bordeaux-Bacalan, qui avait été interdite par... été disqualifiée par la préfecture.
Ouais, elle a été invalidée, ouais, par la préfecture, ouais. Ouais,
voilà.
Avec des militants, il y avait du Grand Parc aussi, hein. Il y avait, je crois qu'il y
avait. Ouais.
Notamment la tête de liste, enfin, c'était une militante du Grand Parc. Ouais, ouais, que ça a été invalidé. Elle devait attaquer en justice, on n'a pas eu de nouvelles par la suite.
Mais, je pense qu'il y aura des moyens de faire d'autres émissions sur la démocratie participative et tout,
ouais,
ça. Voilà. Et surtout, on avait invité les autres têtes et les autres listes, mais bon, elles n'avaient pas répondu. Mais on a eu d'autres poids lourds des autres villes qui sont venus, donc ça rattrape un petit peu. Voilà. Donc, Philippe, je te souhaite bonne fin de campagne.
Ben, merci beaucoup.
Voilà. Et on rappelle que la page, c'est Bordeaux en lutte sur Facebook.
Oui.
Voilà.
Un page Facebook, un site internet, évidemment, qui s'appelle Bordeaux en lutte, tout attaché, et lutte avec un S.
Ouais.
Puisque il s'agit de plein de luttes, évidemment, il n'y en a pas qu'une seule, quoi.
Donc, manifestation samedi avec les ultras.
Ouais, c'est à 16h, je crois. C'est à 16h,
voilà, c'est ça.
Si je ne me trompe pas.
Voilà. Donc, et puis les élections dimanche.
Ouais, et puis par la suite, il y aura des tas d'occasions de se mobiliser, puisque là, il y a quand même aussi des choses qui se précisent du côté des squats, comme à la zone libre à Senon, où elle éclaircit à Gradignan, il y a des menaces d'expulsion. Donc, il faudra être vigilant, et il y a tout un milieu, évidemment, militant, associatif, qui est sur le coup. Et il y aura certainement des occasions de manifester pour s'opposer aux expulsions, hein, parce que c'est quand même dingue. Hein. On sort à peine de la crise sanitaire, on est encore même dedans, et la préfecture s'apprête à revirer les gens dehors. Enfin, c'est terrible, quoi. Hein. Un peu comme l'été dernier avec la canicule, hein. On se rappelle aussi des expulsions en plein été. Donc, voilà. Donc, il y aura des occasions, quand même, de se battre et d'essayer de faire en sorte que la solidarité s'impose à un moment donné, quoi.
D'accord. Bon, mais Philippe, je te souhaite une bonne journée.
Merci,
voilà.
Mais toi aussi, bonne journée.
Voilà. Hein. Et puis à toi aussi. Et puis ce soir, on reçoit, non, cet après-midi à 16h, Monsieur Despera, candidat d'hiver gauche sur Saint-Médard-en-Jalles. Et puis on clôturera la campagne municipale de ça. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Vegas, Val-de-Garonne, Art School vous propose cette formation en continu ou alternance à Marmande. Dans les métiers de l'image, de la BD, de la conception des jeux vidéo et en passant par l'audiovisuel. Pour tout contact, www.valdegaronneartschool.com. Bordeaux FM, la radio qui fait le plein de hits toute la journée.
Les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie, bourrées dans la nuit, et ton corps qui se pleure.